Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Nous lirons encore un passage dans 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 3 et à partir du verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Car là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Pourquoi ? Parce que nous aimons. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Et nous apaiserons notre cœur devant lui. Notre cœur ou notre conscience. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Par cœur, comprenez aussi conscience. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Même lorsque nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Pourquoi ? Parce que notre cœur ne nous condamne pas. Pourquoi encore ? Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi toujours ? À cause du sacrifice expiatoire à Golgotha pour nos péchés. Et encore ! Parce que nous avons cru. Alléluia. Oui, il y a un processus à la foi. Oui, il y a une marche à suivre pour obtenir. Frères et sœurs, combien d'entre nous nous prions et nous ne voyons rien. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas rempli les conditions. Dieu veut nous exaucer et il nous exauce. Mais chaque promesse de la parole de Dieu porte en elle une condition. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Notre cœur égale notre conscience. Si notre conscience ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements, nous obéissons à sa parole, nous cherchons à lui plaire, nous marchons dans la vérité et dans la lumière, nous l'aimons et il nous aime. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue seulement, mais en action et en vérité. Notre amour doit être démontré. Et comment cet amour est-il démontré ? Par l'exercice du pardon. Depuis plusieurs semaines, nous prêchons ici concernant l'amour avec toutes ses conséquences. Et une des conséquences de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain est le pardon, l'oubli de l'offense qui nous a été faite. L'oubli et le rejet de toute rancune. La parole de Dieu parle, soyons sensibles à cette parole. Ne lisons pas cette parole comme des automates, sans penser, sans réfléchir et sans méditer. Le Saint-Esprit viendra à notre aide pour nous faire connaître et comprendre la pensée de Dieu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, car j'étais indigne. J'étais indigne d'être dans le service. J'étais indigne d'être prédicateur de l'Évangile. J'étais indigne de proclamer la bonne nouvelle. J'étais indigne de me tenir devant vous. J'étais indigne de parcourir la terre et d'annoncer ce message. J'étais indigne. Et alors que je vais de l'avant, alors que les années passent, alors que le temps passe, plus le temps passe, plus je vois sa grandeur et ma petitesse. Et devant lui, je m'humilie. Et l'apôtre s'écrie, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, un violent, un fanatique. Mais si je suis ce que je suis, ce n'est pas à cause de mes études de théologie et de mes doctorats. Ce n'est pas à cause de mes connaissances intellectuelles et mes titres académiques. Ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres, mais c'est à cause de sa grâce. Car sans sa grâce, qui suis-je? J'ai besoin de sa grâce. Et si je me tiens devant vous, c'est à cause de sa grâce. Ne voyez que sa grâce. Sans la grâce de Dieu, que sommes-nous? Que sommes-nous? J'essaie depuis plusieurs dimanches de vous dire, frères et sœurs, que la vraie religion, elle est exprimée par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Que la vraie religion, elle est exprimée par des actes. Des actes qui accompagnent les paroles. Que la vraie religion, c'est le pardon du prochain, c'est l'oubli de l'offense qui nous a été faite. Que la vraie religion, ce n'est pas la critique du prochain, ce n'est pas le jugement du prochain, mais c'est l'amour qui pardonne, qui aide, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui supporte tout. Lisez encore les Corinthiens, vous verrez ce qu'il nous dit. Nous aurons Dieu au milieu de nous. Nous aurons l'Esprit qui travaillera parmi nous. Quand nous appliquerons cette parole à nos cœurs et à nos vies, et quand nous la vivrons, afin que le monde voie que nous sommes ses disciples. Comment le verront-ils? Parce que nous nous aimons les uns les autres. Comment le verront-ils? Parce qu'ils verront l'amour exprimé en nous. Et un amour agissant. Nous avons parlé du pardon qui est dû au prochain. Et quand Dieu voit ce pardon exercé, alors il vient et il secourt. Et que Dieu peut bénir que si nous pardonnons. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne peut bénir. Et que ceux qui pardonnent, qui ne pardonnent pas, il les appelle des méchants. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Des méchants. Nous avons vu que si nous voulons de l'efficacité à notre foi et du résultat à nos prières, l'attention de Dieu pour nous alors, Dieu fait attention à nous alors, si nous savons pardonner. Mais si nous ne savons pas pardonner, nos prières seront sans efficacité. L'attention de Dieu pour nous, pour nos besoins, sera sur nous lorsque nous savons pardonner. Nous connaîtrons alors la joie dans notre marche avec lui. La joie. Il nous faut pardonner. Il nous faut oublier l'offense. Et pour autant que cela dépende de nous, nous devons vivre en paix avec tous. Pour autant que cela dépende de nous, nous devons vivre en paix avec notre prochain. Mais il y a une autre dimension de laquelle j'aimerais vous parler et vous entretenir en ce jour. Une autre dimension au pardon, c'est celle où nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Oui, se pardonner à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Se pardonner à soi-même. Que veut dire une telle parole? Il y a le phénomène de la conscience dans l'homme. L'homme est un être supérieur. Au monde animal, le monde animal n'a pas de conscience. Mais l'homme possède une conscience. Une conscience que Dieu a mise dans le cœur de tout individu. Nous parlons de mauvaise conscience. Nous parlons de bonne conscience. Cette conscience, on peut y résister. Cette conscience, on peut la manipuler. Cette conscience, on peut la rejeter. Cette conscience, on peut l'étouffer. Mais elle n'existe pas moins pour cela. On peut presque, je dirais, presque la faire disparaître. Cette conscience que quelques-uns ont perdue, nous dit Paul dans 1 Timothée 1,19. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience, mais leur conscience, ils l'ont tellement piétinée qu'ils semblent qu'ils n'en ont plus. N'avons-nous pas l'habitude de dire dans notre monde, de dire, c'est un homme sans conscience? Oui, c'est une façon de dire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas de conscience, mais sa conscience, il l'a méprisée, il l'a piétinée. Elle peut être influencée, la conscience, par la culture. Elle subit une influence de la culture. Elle peut être influencée par l'éducation. Elle peut être influencée par la religion, quelle qu'elle soit. Elle peut être influencée par les habitudes. Mais elle n'existe pas moins pour cela. Elle est ancrée dans chaque individu. Nous avons une conscience que Dieu nous a mis en nous, dans chaque individu. Elle est ancrée en nous. Quand nous faisons le mal, notre conscience parle. L'homme le plus rustre, le plus ignorant, qui ne connaît rien à l'Évangile, le plus illettré, a une conscience. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la parole de Dieu que lorsque les hommes se tiendront devant lui, Dieu les jugera selon leur connaissance. Ceux qui n'ont pas eu la parole, ceux qui n'ont pas eu l'Évangile, ceux qui ont été loin de tout, de toutes les connaissances que nous avons, Dieu les jugera selon la loi de la conscience. Ceux qui ont eu l'Évangile, il les jugera d'après l'Évangile et la conscience. Attention, mes frères, c'est pourquoi s'écrit l'apôtre, « Ô homme, tu es inexcusable. » Comment se fait-il que l'ignorant, comment se fait-il que l'illettré, comment se fait-il que celui qui ne connaît pas l'Évangile marche en obéissant à la loi de la conscience bien plus droitement que toi qui connais l'Évangile? Nous connaissons dans nos traditions de peuple, de race, de tribu, des hommes qui ont été des hommes droits, qui ont été des hommes justes, qui ont été des hommes d'une haute moralité, n'est-ce pas vrai? Alors qu'ils ne possédaient pas l'Évangile, alors qu'ils ne connaissaient pas les lumières que nous avons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui une génération éclairée, disons-nous. C'est vrai, nous sommes éclairés. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'autant plus responsables vis-à-vis des générations passées. Nous nous vantons d'avoir la connaissance. Nous nous vantons d'avoir et de posséder toutes sortes de lumières que eux n'avaient pas. Mais quand on voit le monde d'aujourd'hui, c'est un monde sans conscience. Son jugement sera combien plus grand le jour où chacun devra rendre compte devant Dieu. L'homme le plus mauvais a une conscience. Et elle nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. La connaissance du bien et du mal, voilà ce que c'est que la conscience. Dans le jardin d'Éden, le serpent a dit, « Si tu manges ce fruit, tu verras, tu connaîtras le bien et le mal, tu seras comme Dieu. » Et l'homme a pris, et l'homme a désobéi au commandement. Cette conscience lui aurait été donnée petit à petit lors de son développement spirituel dans la communion avec Dieu. Dieu avait communion avec l'homme. Dieu descendait chaque jour dans le jardin et il parlait avec l'homme. Et que disait-il à l'homme? Il l'enseignait sur les choses merveilleuses de la vie. Mais Satan a voulu brûler toutes les étapes. Tu seras comme Dieu. Il a mis l'ambition dans le cœur de l'homme et il y a eu le réveil de la conscience. Plus d'innocence. Tu connais maintenant le bien et le mal. Il est surprenant de voir les petits-enfants, alors qu'ils grandissent, la conscience se réveiller. N'est-ce pas vrai? Cette conscience, elle est en chaque individu. Et cette conscience de l'homme lui dit, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Autrement dit, elle est la loi de Dieu dans nos cœurs. La conscience n'impose pas. La conscience n'oblige pas. La conscience n'est pas un dictateur qui est dans nos cœurs. Mais la conscience parle afin que l'homme choisisse. Vous m'entendez? Afin que l'homme choisisse. Et que choisis-tu? Dans 1 Timothée 3:9, il est dit, conservez la foi dans une conscience pure. Beaucoup prétendent avoir la foi, mais leur conscience est impure. Ils piétinent leur conscience. Ils ne l'écoutent pas. Ils savent que c'est mal, mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce que personne ne les voit. Pourquoi? Parce que personne ne le sait. Quoi, personne? Le ciel entier est témoin. Le ciel entier est témoin. Les ténèbres ne peuvent te cacher devant ses yeux. La forêt la plus épaisse ne peuvent te cacher devant ses yeux. Le trou de la terre le plus profond ne peuvent te cacher devant ses yeux. Le ciel entier est témoin de tes actions. C'est pourquoi la conscience parle. Conserve la foi dans une conscience pure. Trop d'hommes et de femmes ont leur conscience impure. La conscience existe aussi bien dans l'homme naturel, dans l'homme adamique, dans l'homme, entre guillemets, païen, que dans l'homme changé, né de nouveau. La conscience existe dans le faux chrétien comme dans le vrai chrétien. La conscience existe dans le païen comme dans l'idolâtre. Cet homme né de nouveau a une conscience encore plus sensible, encore plus affinée que celle de cet homme qui n'est pas encore né de nouveau. Mais cet homme qui n'est pas né de nouveau a une conscience. Mais cette conscience s'éveille lorsque nous sommes nés de nouveau, car elle a été réveillée et vivifiée par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, qui est venu habiter dans cet homme nouveau. Mais quel que soit l'homme et son état spirituel, il y a une conscience. Une conscience qui parle et qui lui dit ce qu'il faut faire, ce qui est bien de ce qui est mal. Il est dit dans Tite, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Voilà ce que nous pouvons dire pour beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se prétendent chrétiens, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu et à Dieu, qui se contentent de rites. Mais quand ils sont sortis de l'Église, ils continuent leur vaine manière de vivre. C'est ça la tragédie qui porte conséquence, conséquence sur le prochain. Frères et sœurs, pourquoi manquons-nous de conscience dans notre pays? À cause du péché, ce n'est pas que les hommes n'aient pas de conscience, mais ils piétinent leur conscience. Ils rejettent leur conscience. Et les conséquences sont là. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et c'est une chose tragique qui porte des conséquences. Peut-être que si cet homme avait eu la conscience de changer les pneus de sa voiture et de son foula-foula qui transporte des centaines de personnes sur la route et qui roule à vitesse, à grande vitesse, s'il avait mis des pneus, dépenser un peu plus d'argent pour mettre des pneus valables et ne pas rouler sur la toile de ses pneus, son pneu n'aurait pas éclaté et il n'y aurait pas eu 35 ou 40 morts. C'est une question de conscience. Si les règlements de sécurité avaient été appliqués, cet avion n'aurait pas broyé des gens avec un marché en bout de piste. Pourquoi? Parce que les règlements disent qu'on ne peut pas mettre de marché en bout de piste. Il y aurait eu l'accident, mais il n'y aurait pas eu tant de conséquences, de malheurs et de larmes. Pourquoi? Parce que la conscience de quelques-uns est souillée. Voilà le pourquoi, frères et sœurs. Gardons-nous de jeter la pierre à qui que ce soit, mais regardons en nous-mêmes. Que dit notre conscience dans notre vie de chaque jour? N'oublions pas que chaque fois que nous piétinons la conscience, pourquoi? Parce que des hommes de conscience ont réfléchi avant. Et ils ont dit, il faut faire des normes de sécurité. Des normes de sécurité pour les véhicules. Des normes de sécurité pour les champs d'aviation. Des normes de sécurité pour les vols. Des normes de sécurité. Oui, mais il y en a qui disent, oui, mais ça coûte trop cher. Oui, mais voilà, je n'ai pas assez de revenus. Il faut que ce voyage me rapporte tant. Or, si j'obéis à tous les règlements, ça va me rapporter seulement tant. Frères et sœurs, ceci, ces choses doivent nous enseigner. La conscience, nous parlons de conscience professionnelle, n'est-ce pas? Combien d'hommes et de femmes manquent de conscience professionnelle? Combien? Malheureusement, trop souvent nous voyons que ceux qui soignent les corps à tous les niveaux manquent de conscience professionnelle. L'heure de leur service est passée. Ils quittent le malade sans que le remplaçant soit venu. Pas de conscience professionnelle. Alors que cette vie est en balance, elle a besoin d'assistance. 24 heures sur 24, mais c'est l'heure de partir, ils quittent. Le remplaçant n'est pas venu, peu importe. Pas de conscience professionnelle. Nous pourrions aller ainsi, décrire ainsi la situation de notre société sur tous les plans, sur tous les niveaux. Aussi bien pour le petit ouvrier que pour celui qui domine la situation, où que ce soit, dans quelque milieu que ce soit, la conscience, oui, la conscience dans l'église, la conscience dans le service, la conscience dans le témoignage, la conscience dans l'image que nous allons présenter de Jésus-Christ à travers le monde. Quel genre de Jésus présentons-nous? Un Jésus menteur? Un Jésus voleur? Un Jésus... Savez-vous que, mes frères, l'image que Jésus, de Jésus que nous présentons au monde sera celle qu'ils verront à travers nous? Si nous sommes menteurs, si nous sommes voleurs, si nous sommes impurs, si nous n'avons pas de conscience, voilà le Jésus qu'ils verront en nous. Que Dieu nous pardonne. La conscience, quand cette conscience, nous l'avons étouffée, nous l'avons négligée, un jour vient où elle va nous accuser. Car elle est toujours là, même dans le cœur du plus méchant, dans le cœur du plus rebelle. Tu l'as piétinée, ta conscience, mais sache qu'elle parle aussi. Un jour, elle va nous accuser. Un jour, elle va crier contre nous. Et nous allons avoir un sentiment de culpabilité. N'est-ce pas vrai? Un sentiment de culpabilité qui va nous ronger. La condamnation, la honte, le regret. Oh, si à ce moment-là, j'avais fait ce que j'aurais dû faire, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Il n'y aura pas eu toutes ces conséquences. Il n'y aurait pas eu toutes ces pertes. Si j'avais fait ce que je devais faire, mais je ne l'ai pas fait. Oui, tu peux encore piétiner qu'à ta conscience, mais sache que tu deviens un homme malade. Tu deviens une femme malade. Et ta conscience va te reprocher. Et ta conscience va te ronger. Et te ronger encore. Et ta conscience va te détruire. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu s'excusent et se persuadent que, dans le fond, ce n'est pas leur responsabilité. Vous voyez, nous avons toujours l'habitude de faire cela, non pas seulement nous, mais déjà au Jardin d'Éden. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a pris du fruit défendu. La femme répond, c'est le serpent qui m'a subjugué, qui m'a trompé. On ne peut pas prendre sa part de responsabilité. Ce n'est pas loin, moi, c'est lui. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, mais lui n'a pas fait. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Vous pouvez rejeter la responsabilité sur les autres. Vous pouvez dire, tout le monde le fait, pourquoi pas moi? L'autre a profité. Moi, je dois aussi profiter. Non, tu ne dois pas profiter. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un homme qui a de la conscience, tu ne vas pas profiter sur ton prochain. Car bien souvent, le profit qu'on veut faire, c'est un profit qui est au détriment du prochain. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas profiter de toi-même, c'est pas vrai? Alors pourquoi profites-tu de ton prochain? Où est ta conscience? Tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, Dieu t'appelle à ne pas le faire. Pour raison de conscience. Que faisons-nous de notre conscience? Le malaise demeure. Tu as beau dire, tout le monde le fait, je le fais, et t'excuser comme cela. Tu as beau dire, ce n'est pas ma faute, c'est de la faute à l'autre. Le malaise demeure. Tu perds la paix. Tu perds la joie. Pourquoi? Parce que tu as piétiné ta conscience. Et piétiner sa conscience, écoutez-moi bien, c'est contre nature. Pourquoi? Notre nature est d'avoir une conscience. Et quand nous violons la nature, nous sommes malades. Piétiner sa conscience, c'est contre nature. Un jour, Jésus prêchait au temple. Il prêchait au temple et subitement on amène devant lui une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens lui disent, la loi de Moïse dit, elle doit mourir, elle doit être lapidée. Bon, si elle était prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme était avec elle aussi, c'est pas vrai? Ah! Pourquoi ils amènent que la femme et ils laissent l'homme? Peut-être l'homme c'était leur copain. Et que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu que dit dans le Lévitique, dans la loi mosaïque, que l'homme et la femme seront lapidés. Or là, ils amènent que la femme. Donc, leur motivation est fausse. Ils ne veulent pas corriger le mal, mais ils veulent attaquer Jésus. La loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Jésus n'est pas contre la loi, il sait que tout péché mène à la mort. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais il sait qu'il est venu dans le monde pour ôter le péché et pardonner, et prendre cette pierre qui devait tomber sur l'homme, de la prendre sur lui et de mourir à la place. Que fait-il Jésus? Il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. D'accord, jetez la pierre, la loi le dit. Elle doit mourir, c'est vrai. Mais que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et que nous dit la parole de Dieu? Accusés par leur conscience, ils se retirèrent depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Le plus vieux, pourquoi? Parce qu'il avait plus péché que le plus jeune. Il avait vécu plus longtemps. Ah, vous qui avez les cheveux blancs, vous voulez jouer souvent à ceux qui savent. Vous voulez dire à la nouvelle génération, leur donner des conseils. Mais que dit votre conscience? Malheureusement, bien souvent, les vieux aux cheveux blancs nous font honte aujourd'hui. Frères, sœurs, regardez à celui qui est mort pour vous. C'est là l'exemple. Nous ne pouvons plus donner l'exemple du vieux aujourd'hui. Dans notre monde qui est tordu, nous ne pouvons plus donner l'exemple du vieux et de soi-disant sage qui a fait 1000 folies. Quand nous venons à Jésus, il nous lave de nos péchés et il les oublie. Mais pour nous, il y a une marque dans notre conscience que l'ennemi cherche à exploiter. Notre conscience est toujours là. Dieu efface nos péchés et il les oublie. Il les a jetés loin derrière lui. Mais voilà, notre conscience nous accuse parce que la conscience, elle n'a pas oublié. L'ennemi nous accuse et il veut nous décourager et il nous harcèle, nous fait croire que jamais nous ne pourrons suivre Jésus-Christ. Tu es trop mauvais, tu as fait trop de mal. Notre conscience s'est réveillée, elle s'est sensibilisée et nous voyons, nous pouvons faire le contraste de l'homme nouveau et du vieil homme. Et nous voyons nos péchés comme une grosse montagne et nous voyons tout le mal que nous avons fait et nous sommes honteux. Jamais, jamais, nous ne pourrons suivre Jésus. Nous avons fait trop de mal. Nous sommes trop mauvais. Nous sommes indignes. Nous sommes incapables. Nous sommes incurables. J'ai péché devant toi. J'ai fait du mal, du mal, du mal.
J'ai tué, j'ai volé, j'étais infidèle à ma femme. J'ai des enfants même à travers le monde, je ne sais même pas partout où j'ai laissé ces enfants. J'étais dans l'occultisme, j'ai prié les idoles, j'ai empoisonné, j'ai fait du mal, j'ai détruit, j'ai menti. Nous sommes venus à Jésus-Christ et nous nous voyons comme dans un miroir. Comme dans un miroir, et l'image que nous voyons nous fait honte. Nous fait honte, et Satan nous dit derrière l'oreille, tu vois ce que tu as, tu ne peux pas suivre Dieu, c'est impossible, il ne peut pas te pardonner. Et il va vous ramener tout ça à la mémoire. Il va vous dire, regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as fait. Peut-être que quand nous ne sommes pas à Jésus-Christ et que nous marchons dans nos péchés, nous sommes complètement aveuglés et nous pensons que ce n'est rien. Mais dès l'instant où il y a la lumière de l'évangile, nous avons honte, honte, honte. Paul a fait cette expérience. Oui, l'apôtre, le grand apôtre, il a fait cette expérience. C'était une chose terrible pour lui que son passé, que la mémoire de ce qu'il avait fait contre Christ. C'était une chose insupportable pour lui. Car il a combattu Christ. Paul, le grand Paul, le grand missionnaire, le grand évangéliste, le grand docteur dans les Écritures. Paul a dû apprendre à oublier son passé avant de pouvoir aider les autres. Car sa conscience était chargée. Nous avons lu ce qu'il a dit là. Il a dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Je rends grâce, car c'est une grâce. Je n'étais pas digne. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. J'étais un persécuteur. J'étais un homme emporté. J'étais un fanatique. Moi, j'ai jeté en prison ceux qui croyaient en Jésus-Christ. J'ai tué. J'étais un criminel. Mais Dieu m'a fait miséricorde. Oh, mes amis, Paul a connu ce combat. Paul a connu cette lutte. Paul a connu ces accusations de l'ennemi. Comme il est écrit, Paul a persécuté. Dans Actes chapitre 9, verset 1, 2, il dit, cependant, il est écrit, cependant, Paul respira encore la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les mena liés à Jérusalem. Liés à Jérusalem. Je vois l'image de ces hommes et de ces femmes liés qui marchent. Les soldats les tiennent, les soldats sont assis sur leurs chevaux et il y a une corde qui les relie les uns aux autres et eux ils marchent sous le soleil dans la souffrance des hommes, des femmes, peut-être même des enfants, liés à Jérusalem, arrivés à Jérusalem, morts de fatigue, morts de soif, peut-être quelques-uns sont morts sur la route, sur le parcours, arrivés à Jérusalem. C'est des insultes, des coups, c'est le cachot, c'est le fouet, c'est des accusations. Voilà ce qu'a fait Paul, vous m'entendez? Il a fait cela. Il est vrai que Jésus l'a arrêté sur la route de Damas, mais sur combien d'autres routes il a été déjà? Et il a enfermé, et jeté en prison, et battu. Il était là témoin de la mort d'Étienne. Il était témoin, et il était d'accord. Lorsqu'on a tué Étienne, Paul, il a eu ce combat, il a eu sa conscience qu'il a accusée. Suivre Christ, servir Christ. Christ lui est apparu sur le chemin de Damas. Des écailles sont tombées de ses yeux. Oui, il était aveuglé par lui-même, son orgueil de religieux qui ne connaissait pas le Sauveur. Il faut plus que la religion pour suivre le Sauveur. Il était un fanatique, un fanatique. Le fanatisme n'est jamais de Dieu, jamais. Même si on est un fanatique pentecôtiste, sachez que vous n'êtes pas spirituel si vous êtes fanatique. Frères, sœurs, qui que vous soyez, le fanatisme n'est jamais de Dieu. Sachez-le bien. Et quand il a trouvé Jésus-Christ, quel combat! Le Seigneur l'a laissé aveugle, aveugle, pendant plusieurs jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas pris aucune nourriture. Désespéré, sa conscience l'accuse. À la fin de sa vie, il écrivait aux Philippiens. Nous le voyons au chapitre 3, versets 12 à 14. Il écrit aux Philippiens à la fin de sa vie, alors qu'il a servi Jésus, alors qu'il a prêché partout. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. De saisir qui? Christ. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, voilà, écoutez bien, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, j'ai besoin d'oublier ce qui est derrière. Ce qui est derrière, je ne peux pas le changer, mais je peux changer ce qui est devant, si je suis Jésus-Christ. Ne te laisse pas accuser par l'ennemi qui utilise ta conscience. Il était un blasphémateur. Il était un persécuteur de l'Église. Il était un violent et un fanatique. Il a donné son accord pour le meurtre d'Étienne. Paul a besoin d'oublier maintenant et de se pardonner à lui-même. Il ne peut pas le faire par lui-même, mais il ne peut le faire que par le secours et la grâce de Dieu. Oubliant ce qui est en arrière et me portant en avant, vers, en avant, je cours vers le but. Non, tout cela est sous le sang de Golgotha. Dieu l'a oublié. Donne-moi de l'oublier, Seigneur. Je veux courir vers le but. Vers le but, la gloire de Dieu. Vers le but qu'il a destiné pour moi. Il est nécessaire de se pardonner à soi-même si nous voulons que la foi et la prière opèrent en nous. Car si notre cœur nous condamne, ces gens qui nous disent ça, nous n'aurons pas d'assurance devant Dieu. Si notre conscience nous condamne, nous n'aurons pas d'assurance devant Dieu. Et je sais que ceci est une parole vraie. Notre cœur, notre conscience nous accuse et nous enlève toute assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce que notre conscience, Satan utilise notre conscience pour nous accuser de choses vraies. C'est pas ça? De choses vraies. Là, Satan ne ment pas. Quand il nous dit, tu as volé. Quand il nous dit, tu as tué. Quand il nous dit, tu as commis adultère. Quand il nous dit, tu as détourné les biens d'autrui. Quand il nous dit ces choses-là, il dit vrai. Là, il dit la vérité. C'est pas vrai? Et il nous dit, avec notre conscience, pourquoi? Parce qu'il veut couper la communion que nous avons avec Dieu. On veut prier, mais le diable vient avec toutes sortes d'accusations et rappelle ces choses que nous avons commises et desquelles nous avons honte pour nous empêcher de prier. Il ramène le passé dans la conscience pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Des choses vraies qu'il nous dit là, qu'on a commises et qu'on ne peut prier. Et on se sent coupable, désespéré. Le passé devient comme un monstre pour nous séparer de Dieu et nous accuser. Je sais cela parce que j'ai expérimenté cela. Je me souviens un temps dans ma vie, lorsque j'étais tout jeune, j'avais des combats et des luttes. Et certaines fois, je faisais des choses que je savais être fausses et mal et péché. Et je demandais pardon à Dieu, et voilà que je le refaisais encore. Et je demandais pardon à Dieu, et voilà que je le refaisais encore. Et ma conscience m'accusait. Elle m'accusait. Je voulais prier, et je disais non, c'est impossible. C'est impossible, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. J'ai demandé pardon à Dieu pour cette chose-là, et j'ai recommencé. Qu'est-ce que Dieu va penser? Je ne peux pas prier. Ma conscience m'accusait. Elle me harcelait. Et à cause de cela, je refusais de prier. Pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais honte devant Dieu. Je lui ai demandé pardon et je recommence. Comment est-ce possible? Satan était tout content. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que ma conscience m'accuse à tel point que je ne puisse avoir communion avec Dieu. C'est ça, son truc. C'est ça, sa combine. C'est ça, sa façon d'agir. Frères et sœurs, dans ta faiblesse et dans ma faiblesse, j'ai dû apprendre à pleurer devant lui et à dire, Seigneur, au secours, je te veux, je veux marcher avec toi, mais j'ai compris que seul je ne peux pas. Viens à mon secours et lave ma conscience. Aide-moi à me pardonner à moi-même. Sachons que si nous nous sommes repentis et avons reçu Jésus, notre passé aussi sombre soit-il n'existe plus. N'existe plus, sachez-le. Tout est effacé. Elle n'existe plus. La dette est payée. Cette dette était énorme, énorme, énorme. Ma dette est payée. Mais sache que quand ta dette est payée, tu dois pardonner à l'autre qui a péché vis-à-vis de toi. Dans Ésaïe 43, versets 25 à 26, il est dit, « C'est moi qui efface tes transgressions. » Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parlons, parle toi-même pour te justifier. Il a effacé, il a oublié, pour lui ça n'existe plus. Et il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle, autrement dit, prie, cherche ma face, plaide ton cas, tes problèmes, tes besoins. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à te secourir. Mais sache que tout le passé n'existe plus pour moi. Ce n'est pas suffisant de reconnaître nos péchés. Nos péchés sont effacés. Mais il faut vous pardonner à vous-même et oublier ce passé. Faire un acte de foi. Croire qu'il vous a agréé. Tel que vous êtes, tel que je suis, je viens à toi. Tels que nous sommes, prends-nous. Frères et sœurs, il y a plein de choses à dire encore. Reconnaissons que nos péchés sont effacés. Reconnaissons que notre conscience a été renouvelée. Notre conscience doit être déchargée. Elle ne doit plus nous accuser. Tels que nous sommes, il nous change. Elle nous rend libres du péché. Oui, nous sommes libres, mais aussi libres de nous-mêmes, libres de notre conscience qui nous accuse, libres de Satan qui nous accuse par notre conscience, libres de notre vie passée. Nous ne pouvons rien changer au passé, mais nous pouvons changer notre avenir avec Jésus qui libère du péché et de la malédiction. Nous pouvons changer notre avenir. Ne soyons pas des handicapés spirituels. Ne soyons pas des boiteux spirituels. Sachez que quand vous venez à Christ, le passé est le passé. Vous pouvez être des criminels, vous pouvez avoir tué beaucoup de gens, vous pouvez avoir accusé injustement, vous pouvez avoir violé votre conscience combien de fois, vous pouvez avoir des enfants dans tous les coins sans jamais vous occuper d'eux, vous pouvez avoir abusé de femmes ou d'hommes de façon terrible, mais sachez que quand vous venez à Jésus-Christ, ce passé, il l'efface. Était votre vie de débauche. Il vous regarde aujourd'hui comme vierge. Le passé est sous le sang de Golgotha. Il a effacé, il a oublié. Quelles qu'aient été vos fautes, ne laissez pas l'ennemi vous accuser, vous accabler. À travers votre conscience. Votre conscience, il veut la renouveler, comme il l'a fait pour Paul. Ce n'est plus qu'une image. Ces accusations, Satan va venir avec des vieilles photos du passé. Vous savez, ces vieilles photos, toutes jaunies, à moitié déchirées, il va vous le mettre devant lui, devant vos yeux. Mais vous dites, tout ça c'est sur le sang de la croix. Et je sais qu'il l'a oublié, je sais qu'il l'a oublié. C'est une vieille image, elle est brûlée, elle est jetée sur l'autel. Alléluia. La réalité de ce passé n'existe plus devant Dieu. C'est effacé, c'est oublié par le sang de Christ, comme il vous a pardonné. Pardonnez-vous à vous-même. En oubliant ce qui est en arrière, nous nous portons en avant vers ce qui est éternel. Baissons la tête. Seigneur Jésus, tu vois que notre conscience nous accuse tant de fois. Mais Seigneur, tout cela, nous te l'apportons, Seigneur. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui que tu sois, accusé par ta conscience, ne veux-tu pas venir la porter à Jésus-Christ? Accusé par ta conscience parce que tu as manqué. Lève-toi maintenant, qui que tu sois. Ta conscience t'accuse. Tu as manqué dans ton travail. Tu n'as pas fait preuve de conscience professionnelle. Tu n'as pas fait preuve de conscience spirituelle. Tu n'as pas fait preuve de conscience en tant qu'enfant de Dieu. Tu as violé ta conscience. Il t'appelle maintenant. D'abord, repens-toi. D'abord, que tout soit sous le sang de Golgotha. Et que d'abord, que tout soit apporté à l'autel. Et ensuite, il effacera ton passé. Et si Satan vient devant toi pour te montrer ce que tu as fait autrefois, ne te laisse pas troubler. Dis-lui, tout cela est sous le sang C'est une vieille photo, c'est une vieille gravure, c'est une vieille image. C'est fini. La réalité n'existe plus, car il a effacé une nouvelle créature. Oh, ta conscience t'accuse. Sache que quand tu piétines ta conscience, tu fais une action contre nature. Contre nature. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Sache que tout ce qui est contre nature amène la destruction du corps physique. Combien d'hommes et de femmes meurent aujourd'hui à cause de l'accusation de leur conscience? Ils dépérissent dans leur âme et dans leur corps. Ils deviennent malades parce qu'ils ont piétiné leur conscience. Viens à Jésus-Christ et tu trouveras la santé pour ton corps quand ta conscience sera purifiée. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes, et je te demande, mon Dieu, libère leur conscience chargée. Libère-les, mon Jésus. Donne-leur une conscience nouvelle, lavée dans le sang de Golgotha. Seigneur, avec toi, le passé est effacé, oublié. Mon Dieu, il est vrai que Paul, à la fin de sa vie, se souvenait de ce qu'il avait fait autrefois. Mais il a dit encore, « J'ai oublié les choses du passé et je cours en avant vers le but qui m'a été désigné en Jésus-Christ. »